With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma. Je ne suis pas Thomas Rozek, qui, pour des raisons de programmation extrêmement virile aujourd'hui, a préféré céder sa place. Et je salue tout de suite mes gars sûrs, Anaïs Bordage, bonjour.
Yo.
Perrine Canson, bonjour. Au niveau de la crédibilité, je pense qu'on n'est pas loin du zéro, mais on l'attente quand même. Testostérone, immeuble soi-disant haute sécurité, mon œil, feu, cascade, biscotto, saillant, telle est la formule de Skyscraper, actionneur signé Rawson Marshall Thurber, réalisateur du génial Dodgeball et d'autres choses plus anecdotiques par la suite. C'est Nos Ciné, épisode 147, et selon l'expression consacrée, c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
La bande-annonce de Skyscraper en dit beaucoup, à mon goût, mais voici un petit extrait qui nous pose le personnage de Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, en vétéran.
You ever miss it?
I haven't touched a gun in 10 years. After what happened that night.
FBI, show me your hands!
I just put my sword down, you know. Without that bad luck,
you're gonna be okay.
I never would have met Sarah. I never would have had my kids.
Daddy loves who?
Me.
Daddy loves who?
Me.
I love you.
You matter.
Dwayne Johnson is Will Ford, ancien du FBI, vétéran de guerre, désormais responsable de la sécurité des gratte-ciels en Chine. Il est en charge du bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde. Sauf que, soudain, le feu. Il est accusé de l'avoir déclenché et, accessoirement, sa famille est enfermée dedans. C'est fâcheux. Mademoiselle, avez-vous eu chaud? Ouais, c'est bizarre comme manière de poser la question, je vous l'accorde. Périne.
Là, on a chaud, là maintenant, là, tout de suite. Voilà. Mais oui, non, mais de toute façon, dès qu'on voit Dwayne Johnson, on a un tout petit peu chaud de toute façon. Cet homme donne chaud. C'est un peu son. Je pense que c'est comme ça qu'il se vend, c'est comme ça qu'il existe aussi. Et je repensais à ce que tu venais de dire sur. C'était un building, je sais jamais comment on doit dire. C'est un building, une tour,
un gratte-ciel.
Merci, c'est le mot. Bah oui, skyscraper. Ouais, English 101. Mais c'est voilà, donc en fait, tu dis c'est le plus sûr du monde, etc. Et à chaque fois qu'on dit ça dans un film, de toute façon, faut se faire l'idée que ouais. Ça ne sera pas le cas. Remember Titanic, enfin, au bout d'un moment,
c'est le plus gros paquebot du. Oh, un iceberg. Terminé.
Insubmersible, qu'il disait. Enfin, bon, voilà, ouais. Pas tant que ça. Donc, on est dans le même drama. Mais c'est vrai qu'on a eu la petite visite guidée à un moment donné du fameux gratte-ciel. Ouais. En l'occurrence, je vais y arriver à un moment donné. Gratte-ciel, comme ça, qui donne un petit peu envie. Hein. Il y a de la faune, il y a de la flore, il y a de la cascade. C'est un petit peu joli, c'est un peu sympa. Donc après, à part ça, je dirais que la nouveauté, elle était là-dedans, dans ce film-là. Elle est dans à quoi ressemble ce gratte-ciel, et aussi sur le fait que ça se passe à Hong Kong avec un casting chinois très très développé, qui a des vrais rôles, accessoirement. Parce que quand il y a des coproductions comme ça, américaines, chinoises, ben...
Tout le monde n'est pas bien servi.
On a beaucoup de rôles chinois prétexte, voire il y a deux versions, hein, une version américaine et une version chinoise avec un personnage chinois qui existe davantage. Donc là, non, pour le coup, on est quand même beaucoup plus, c'est beaucoup plus inculqué à l'histoire, donc ça va inscrit dans l'histoire, donc ça fonctionne beaucoup mieux. Sorti de ça, voilà. Voilà, voilà. C'est très difficile d'en dire beaucoup
Anaïs,
plus.
Voilà.
Bah voilà. Non, bah en fait, effectivement, le building, le gratte-ciel donne envie, mais je trouve qu'ils essayent d'en faire un peu trop avec cette présentation numérique où ouais. En fait, il te faut un peu rentrer dans un écran d'ordinateur et de voir un peu ce que ça donne, par exemple à la télé quand ils sont en train de décrire le truc. C'est un peu, on en prend un peu plein les yeux, mais en même temps, ça va trop vite, on comprend rien. Enfin, on sent qu'ils ont voulu faire le truc. Bon, bah, regardez, il y a la technologie maintenant en 2018, donc on peut vous faire des plans en 3D, mais c'est un peu bizarrement foutu. Il y a plein de moments, en fait, où je me disais, j'aimerais bien voir plus de scènes dans les différents endroits de la tour, plutôt que là, en fait, on a deux, trois endroits principaux, mais sans vraiment savoir ce que ça aurait pu donner, en fait, si le truc avait été inauguré et si des gens avaient vraiment vécu dedans. Et après, le problème, c'est que c'est quand même un film de 1h30 et quelques, et qu'on arrive à s'ennuyer.
C'est ennuyeux.
C'est un peu ennuyeux. Un film d'1h30 où Dwayne Johnson escalade des tours à main nue ne devrait pas être ennuyeux.
Mais à main nue, mais avec une on a le droit de le dire.
C'est dans la bande-annonce,
l'ouverture avec une jambe, ouais. Une jambe, comment dire,
artificielle. Ouais. C'est, mais déjà,
c'est d'autant plus fort.
Effectivement, et elle joue un rôle crucial dans l'intrigue. Mais
la jambe, en fait, tu veux dire ?
Oui.
Et elle parle. En fait, d'un seul coup, elle se met à parler. C'est très gênant.
Vraiment une distribution des rôles très, très égalitaire.
Très, très, encore une fois.
Moi, je trouve qu'il y a un gros problème en fait avec l'exposition qui dure trop longtemps. On a la première grosse demi-heure du film où ils font que nous expliquer justement comment fonctionne cette tour, mais sans vraiment développer le reste de l'action, alors qu'on est venu ici quand même pour voir Dwayne Johnson escalader une tour à main nue, pour le voir sauter d'une grue, pour le voir se jeter dans le feu.
Et ça, il le dit. Comment tu es arrivé, chérie ? J'ai sauté d'une grue.
Exactement. Et c'est ça qu'on veut.
Et ça marche. Et franchement, ça marche bien dans le film quand ça arrive, en plus, à ces moments-là. Parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que l'exposition est un peu vraiment longuette. Et puis surtout, comme tu disais, on a cette visite guidée. On insiste, hein, parce qu'il est sympa, ce gratte-ciel, hein, a priori, comme ça, avec la perle et tout.
Mais au-delà du gratte-ciel, Hong Kong est une super ville de cinéma. C'est-à-dire qu'il faut, si on tourne là-bas, explorer toutes les capacités.
Et le problème, en fait. pas tant que ça. C'est-à-dire que dès qu'on a fait cette visite, on est sur du décor de studio complètement. Ouais. On n'en sort plus du tout. Donc c'est 3-4 endroits, comme tu disais. Et puis comme ils sont en feu, on voit pas grand-chose. Clairement, il y a une barre. On a un endroit avec plein d'écrans, j'ai toujours pas compris l'intérêt du truc, mais sorti de ça, voilà, c'est vrai que ça devient tout de suite très anecdotique, et un peu comme le film qui finalement, on se dit, c'est un film catastrophe. Non, c'est pas vraiment un film catastrophe, parce qu'en fait c'est une histoire d'attaque. C'est un film, c'est plutôt à la Piège de cristal, parce que voilà, on est dans un building,
Le mot est lâché, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on regarde la bande-annonce, on se dit que ça louche quand même sévèrement du côté de Die Hard.
Mais justement, c'est un strabisme un peu convergent à ce niveau-là, parce que ils ont le héros
sans Marcel,
et ce qui était très étonnant de la part de Dwayne Johnson, soyons clairs,
ce grand homme,
voilà, là on a un héros en chemise, et c'est un renversement de situation pour Dwayne Johnson, qui a porté du beige que depuis à peu près 5 films, et d'un seul coup il est en chemise bleu ciel, donc moi j'étais un peu perturbée, mais à part le héros et la tour, on s'arrête là sur la comparaison avec et des méchants, on s'arrête vraiment là,
les
quoi.
Méchants sont vraiment mais inintéressants, enfin en fait,
méchante, on est d'accord, non ?
Il y a une méchante qui est sympa, mais en fait, enfin, qui est sympa. Elle est pas trop sympa, mais son personnage est assez cool, parce qu'elle est là, elle est efficace, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a prise pour bastonner des gens, et elle bastonne les gens très très bien. Après, ça fait un peu le truc prétexte, comme le personnage de la petite fille de The Rock, qui à un moment on lui dit et toi t'es une princesse, elle dit non, moi je suis un roi. Et tu sens qu'ils ont voulu insérer 2-3 références un peu féministes pour montrer qu'on est quand même inclusif, mais ça reste limité à ça, voilà.
C'est pas naturel en plus. Surtout la gamine, c'est pas naturel à ce moment-là de sortir ça.
C'est un peu, ça arrive un peu, comme un cheveu sur la soupe. Après, il y a quand même le personnage de la femme de The Rock qui est très très bien.
Quand même la comédienne la plus malchanceuse du monde, c'est-à-dire qui survit à un tueur en série qui l'attaque genre 3 ou 4 fois et qui se retrouve dans une tour en feu, Neve Campbell quand même.
Ouais.
Gros souci.
Mais ça fait plaisir de la voir.
On est très content de voir Neve Campbell dans autre chose que de se faire poursuivre par un mec des masques.
Là, c'est des flammes. Elle tabasse pas mal quand même aussi. Donc c'est assez agréable de l'avoir tabassé ces méchants. Mais alors c'est méchant, mais ils ont aucun intérêt. On a vraiment, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un scénario aussi alambiqué où ils essayent de t'expliquer pourquoi en fait la tour est en feu. Mais on s'en fout. On veut juste rentrer dans de l'action. On veut du spectacle et des belles cascades. Et en fait, au lieu d'avoir ça, toutes les 5 minutes, on nous remet 10 minutes d'exposition pour nous expliquer qu'il y a un disque dur avec des mafieux,
machin. Moi, j'ai toujours pas compris, personnellement.
Mais ouais, c'est ça. C'est incompréhensible et surtout ça n'a pas d'intérêt parce que c'est un film de l'été et on a envie de voir vraiment du grand spectacle, et quand le film va dans ces scènes-là, c'est très bien. On frissonne, on crie parce que il y a les scènes de vertige.
Oui, voilà, il joue sur la notion de profondeur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont bien conscients qu'on est dans un gratte-ciel et que forcément c'est très très haut. J'apprends rien à personne. Et donc il y a toujours quelques séquences comme ça qui jouent vraiment avec cette idée de on va tomber. Et sincèrement, pour les gens qui ont un petit peu le vertige. J'en citerai pas autour de cette table.
Je n'en connais pas.
Non, personne. Mais j'ai eu 2-3 moments de Hulker bien sentis parce que clairement la caméra qui bascule d'un seul coup parce que Dwayne va tomber, ça marche bien parce qu'on a. J'ai eu beaucoup plus de sensations en regardant ça qu'en regardant The Wire de. Man on Wire. Oh, je sais plus le nom. Le film de Zemeckis avec Joseph Gordon-Levitt qui traverse entre les tours jumelles sur un fil. Qui finalement me donnait beaucoup moins de sensation de vertige que les 3-4 scènes du film qui ici d'un seul coup jouent très bien avec cette idée de profondeur à un moment donné et cette idée de vide. Ouais, ça fonctionne. Clair.
Mais le problème c'est qu'il n'y en a que 3-4 quoi. Alors qu'on attend quand même un peu un film entier rempli de ça, et à part ces scènes-là qui sont assez spectaculaires et qui sont bien foutues dans la réalisation, vraiment on a l'impression nous-mêmes de tomber un peu, c'est assez bien foutu. Bah, tout le reste c'est vraiment un truc ultra tiré par les cheveux qui n'est pas très utile à l'histoire, et je comprends pas pourquoi ils ont voulu se compliquer la vie à essayer d'expliquer toute l'histoire sur 5 générations de ces méchants plutôt que juste de nous dire voilà, on a une tour, on a des méchants, on a Dwayne Johnson,
on a du feu,
voilà, let's go quoi.
En plus moi j'ai découvert un truc, il y a une poudre qui prend feu avec l'eau, moi j'étais genre mais c'est incroyable cette histoire, mais c'est brillant,
on est sûr que c'est vrai.
Ah mais je sais pas, mais je trouve ça génial parce qu'après plus tu mets de l'eau plus ça brûle, enfin c'est complètement génial.
Non, c'est impossible.
Mais ça s'arrête pas,
c'est complètement impossible,
c'est fou et tout.
C'est, signalons-le quand même, le premier film de Rawson Marshall Thurber qui ne soit pas une comédie, ceci expliquant aussi peut-être cela. C'est est-ce vrai. Qu'on peut dire que en tout cas pour les scènes d'action le pari est réussi?
Pour les... bah,
en fait, est-ce qu'il y a des scènes d'humour en fait, peut-être parce que ça peut compenser, est-ce qu'il y a des moments drôles?
Pas du
ou
tout,
même
pas beaucoup,
pas
du tout.
Et c'est ça le problème du film, c'est qu'en fait ils essayent vraiment de faire quelque chose d'assez sérieux en fait.
Très premier degré.
Ouais voilà, dès le début c'est il y a un peu la scène d'introduction du personnage de Dwayne Johnson qui est censée être un peu émouvante en fait. On lui donne toute une backstory, il y a une histoire avec un vieil ami qui, enfin voilà, on nous fait rentrer dans un truc qui ressemble à du drame limite alors que ça devrait pas l'être quoi, c'est pas du tout un film, enfin c'est pas du tout un film qui devrait être sérieux, c'est un film qui doit assumer complètement son côté taré quoi, et malheureusement ils vont pas jusqu'au bout, ils essayent trop de faire ça très sérieusement, et comme tu disais l'espèce de pièce où il y a des panneaux partout là, ou des écrans machin, qui sont mis là uniquement pour une scène d'action à la fin, mais qui n'ont aucun sens dans l'histoire en fait. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui n'ont pas de sens, et donc au lieu de s'emparer de ça et de dire bah on fait un film qui est 100% divertissement en fait, ils essayent de mettre des petits éléments comme ça de drama qui font un peu tomber le truc à l'eau quoi.
Surtout c'est un petit peu trop composite, c'est un peu trop emprunté de beaucoup de choses, c'est-à-dire par exemple cette scène avec les fameux panneaux, les écrans qui reflètent des gens, on pense tout de suite à Total Recall parce qu'il y a une séquence comme ça où ils se multiplient et donc on joue avec ça, donc on est dans l'idée de Total Recall, donc on l'a dit, piège de cristal déjà. Après il y a cette histoire très dramatique, et moi je trouve que la scène d'ouverture elle fonctionne très très bien, elle fonctionne particulièrement bien parce que la backstory fonctionne sincèrement sur le personnage de Dwayne Johnson, mais on va chercher quelque chose, voilà, comme tu disais, de l'ordre du drame un peu militaire, je suis en train de chercher une référence, mais bon on a vraiment comme ça un film
un 4 juillet genre.
Ouais pourquoi pas, on pourrait
aucun rapport,
mais c'est résultat ça devient un film un petit peu Frankenstein, fait un petit peu de plein de choses à la fois, et il a du mal à devenir vivant, et c'est dommage parce que alors les rares moments d'humour qu'il y a dans le film, c'est juste un personnage que quand Dwayne Johnson arrive à sauter à travers la fenêtre après avoir sauté de la grue, il y a juste un personnage qui fait genre oui comme ça, et c'est peut-être le seul truc un peu drôle du film, donc il y en a vraiment très très peu, mais après pourquoi pas être sérieux, mais le problème c'est que le film est tellement plein de choses, il est dans un trop-plein qu'il n'arrive pas à avoir une ligne conductrice, une ligne forte, là où au bout d'un moment, comme tu le disais Annie, c'est vrai, on a envie juste de grands spectacles.
Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, comme on dit dans le stand-up, Dwayne Johnson joue assez souvent les personnages dont la faiblesse, ou en tout cas ce qui sert de ressort à ses aventures, c'est quand même globalement cette espèce de rôle hyper paternel. Ouais, c'est qu'on lui colle toujours des enfants et c'est toujours ça le problème en fait. Et là encore une fois, ça joue sur
un peu comme le Marcel.
Est à l'intérieur.
C'est le Marcel et dire daddy au moins 5 fois, 5 fois par minute dans tous ses films.
Ou nounou, c'est un peu babysitter. Un Dwayne Johnson diminué est-il quand même un bon héros?
Oui,
complètement. Ouais.
Toujours.
Complètement.
C'est ça qui est, enfin, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant dans Skyscraper, c'est pas tant le film que ce qu'il dit de la carrière encore une fois de Dwayne Johnson en fait. C'est-à-dire que vraiment, il continue à tracer. Alors il a fait des choses très très différentes, hein, comme tu l'as dit, nounou, parce qu'on pense l'a fait malgré lui ou un truc comme ça. Il a fait d'autres choses, hein, clairement. Mais depuis quelques années, avec les Fast and Furious, avec
No Pain No Gain.
Alors, oui, bon, alors, ouais, non. Lui, il sort de mon, il sort de ma catégorie.
Non, mais c'est un cas intéressant, The Rock Dwayne Johnson, parce que, sauf erreur de ma part, enfin, moi, la première fois que je me souviens clairement de lui, c'était quand il jouait le Roi Scorpion, dans
oui,
la momie.
Oui, c'est ça. C'est son premier film, d'ailleurs.
Donc, ouais. Du Roi Scorpion à Jumanji, en passant par Doom, qui était quand même pas une grande réussite. Bienvenue dans la jungle, Southern Tales de Richard Kelly, quand même, on l'oublie, mais il a quand même joué là-dedans. Maxi Papa, moi, tout est dans le titre, c'est quand même en passion. Very Bad Cops, Fast and Furious, No Pain, No Gain, et ceci. Alors, je vous laisse juste vous faire écouter un petit extrait. You've come to tell me something you say I ought to know. He don't love me anymore and I'll have to let him go. Ceci étant Be Cool de F. Gary Gray, d'après Elmore Leonard, c'est un film dans lequel il est vaguement gangsta et rêve de mener une carrière country. Donc, c'est-à-dire que l'extrait qu'on entend est assorti d'un clip dans lequel il est quand même habillé en, on dirait un back dancer de Madonna dans la période dentelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de ce garçon, en fait, quel que soit le registre, perso ou passion?
Ah, bah, complètement.
Et de cette carrière qui est...
Il est en fait il est fait pour ses rôles de à la fois action et ou comédie quoi, c'est-à-dire que c'est un mec comment dire plus grand que
bigger than life,
voilà, ouais. Littéralement voilà, il se met souvent torse nu et
on lui en veut pas,
aucun problème, voilà, on a aucun
du
problème
tout.
Avec ça,
non.
Mais en même temps il a ce côté comme tu disais extrêmement paternel et du coup très attachant quoi, c'est-à-dire que il pourrait jouer les gros méchants parce qu'il a des gros bras et tout, mais en fait il a ce côté ultra touchant et vraiment bon. On a vraiment envie de lui faire confiance. Et je pense que c'est pour ça qu'il cartonne autant dans tous ces rôles-là, quoi. Parce qu'on a vraiment envie de se remettre complètement à lui et de lui dire « Vas-y, sauve-moi ».
Non, mais parce qu'au-delà de ce rôle, effectivement, de super sauveur, de gros costaud, c'est vraiment le personnage qu'on peut imaginer mettre un genou à terre, en fait. Il est faillible, malgré cette espèce de physique de colosse. En fait, on peut le projeter dans un truc où...
Surtout, il a pas peur d'essayer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que dans les films que tu as cités, on voit vraiment des choses très, très différentes. Quand on passe de Maxi Papa à Southland Tales en passant par Be Cool, on voit bien que... Et puis, bon, tous les autres qu'on a pu citer auparavant, on voit bien qu'il peut faire des choses vraiment... Il a une palette comme ça, parce qu'il a vraiment cette notion de cool. Il est cool, c'est le mec cool. Et il a vraiment ce truc, parce que c'est un peu le héros d'action, c'est évident. Il a la panoplie, les muscles, l'importance, voilà, la carrure, le regard, le fameux regard, comme ça.
Le truc avec le sourcil, là. Sourcil relevé.
Il a juste ce truc, genre... ça marche très bien. Et en même temps, il a dans son discours, c'est un héros moderne, c'est-à-dire qu'il n'est pas que muscle, il est aussi dans la discussion. C'est quelqu'un qui est inclusif, hyper inclusif.
Ouais.
Déjà, lui-même est un donc il vient de je sais plus quelles îles. J'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas la tenter. Mais voilà, il est lui-même issu de la diversité. C'est quelqu'un qui a toujours le rôle, le mot sympa, le mot qui va inclure les gens et qui va pas diviser les gens. Il est pas plutôt en train de dire il y a des bons, il y a des méchants. Non, il est en train de dire bon allez, venez tous, on se fait un câlin, c'est la fête quoi. Donc il est un héros moderne puisqu'il est pas le mec qui vient pour casser des gueules, même s'il le fait quand même, mais il le fait parce qu'il a pas le choix de le faire. Et c'est par exemple tout son personnage de Skyscraper où il a pas envie de taper, mais au bout d'un moment il y a pas le choix que de taper quand on tape.
Non, puis après saluons aussi sûrement l'imagination des réalisateurs qui l'ont fait tourner, parce que quand il a débuté la période du Roi Scorpion, il jouait comme on joue dans les matchs de catch qu'il pratiquait, c'est-à-dire c'était quand même un peu monolithique, un peu, mais que très rapidement le type a su démontrer que déjà il avait de l'humour. Je pense que c'est vraiment ce qu'a joué en sa faveur et que très rapidement dans des comédies il a fait des merveilles.
Ouais, puis c'est un bosseur, en fait, ça se voit. N'importe quel film qu'on lui donne, il arrive à en faire quelque chose. Alors après, évidemment, il a un registre qui lui va très bien. Mais comme tu disais, il prend des risques. Et surtout, ça se voit que c'est quelqu'un qui prend ça au sérieux, sans en faire trop. Mais il vient pas juste pour encaisser son chèque, quoi. On sent que c'est un mec qui bosse, qui... Même dans les promotions, en fait, il est tout le temps présent. Il vient tout le temps mieux sapé que n'importe quel autre mec de ses castings. Il a aussi cette réputation de mec sérieux qui fait le boulot et qui prend pas ça à la légère, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il est très impliqué. C'est ce qu'on appelle un très bon client. C'est vrai que sur les promos, les junkets, etc., il est, c'est la cheerleader. Hein. C'est moi, d'abord. Donc, ça le rend aussi très sympathique. Qu'est-ce qui lui manquerait aujourd'hui? Quel genre de rôle? Quel genre de film? Avec quel genre de réal pour passer Parce que, mine de rien, il a un degré de notoriété qui est extrêmement important. Ah bah là, mais il n'est pas encore dans la cour des grands comédiens de films d'action passés à la postérité. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais qu'est-ce qui lui manquerait, en fait?
Au contraire, justement, je trouve qu'il a justement cette postérité. Il aura cette postérité de grand comédien de film d'action. Pour moi, il l'a déjà. Ça, par contre, il a pas. Il a un statut. C'est une superstar. Il y a pas de souci là-dessus. Mais il a pas encore le statut d'acteur sérieux. Vraiment, on a du mal à le prendre. On se dit, on va bien rigoler avec lui. Ça va être très sympa. Il va très bien faire son taf. Mais on n'a pas. C'est horrible à dire, mais bon là. Moi, je pense qu'il lui faudrait un vrai drame, un vrai de vrai, voir à quel, enfin, ce qu'il est capable de jouer s'il va dans le pur et dur drame. Est-ce qu'il serait capable de jouer quand il n'est pas question de sa force physique, qu'il n'est pas question d'être dans l'autodérision. J'aimerais bien savoir s'il avait un vrai drame où il n'y a pas d'once, de possibilité de s'en sortir par ce qu'il a l'habitude de faire. J'aimerais bien le voir là-dedans.
Une vanne ou un coup de pied, tu veux dire?
Comment?
Tu veux dire une vanne ou un coup de pied?
Une panneau, un coup de pied, parce que c'est un peu ça qu'il le définit. Et j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire d'autre. J'en suis sûre qu'il s'en sortirait très bien, mais un vrai, quelque chose d'assez. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi je pensais à Kramer contre Kramer, donc rien à voir. Mais en soi.
Pas encore cette histoire de paternité. C'est le papa Dwayne Johnson. Non, je sais pas, Anaïs, tu le verrais chez qui?
Bah moi, je le verrais bien chez Soderbergh. Je pensais à Logan Lucky récemment, qui a pris plein d'acteurs, qui était un peu à contre-emploi. Et en fait, je le verrais très bien dans un film comme ça, qui joue sur de la comédie, mais qui est en même temps beaucoup plus qu'une comédie, parce que il garde cet attrait ultra sympathique, mais en même temps, je le verrais bien dans un second rôle. Un peu barré, mais chez un réalisateur, comme Soderbergh, ou encore mieux chez David Lynch, dans un peu pour qu'il puisse faire son outrance habituelle, mais dans un registre complètement différent, vraiment très 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 décalé et un peu plus artsy, quoi.
On sent qu'il a vaguement tenté la Tarantinade avec justement Be Cool, mais bon, Gary Gray n'est pas Tarantino non plus, donc il y avait quelque chose de ce côté-là, parce qu'il y avait aussi Travolta au casting. Ça lorgnait sur ces codes-là, mais le film n'a pas eu non plus l'impact d'un Pulp Fiction.
Et il avait tenté un truc un peu à la Lynch en faisant Southland Tales aussi de Richard Kelly.
Le non-succès qu'on connaît, malheureusement.
Il a même pas atterri en salle. Donc, Cannes et rien.
Ce qui est très dommage d'ailleurs.
Très violent, parce que le film est bien.
Ouais, plutôt bien. Si je vous demande une recommandation, mesdames.
Tu t'en sais?
Alors, soit une Dwayne Johnsonnerie, mais bon, ça me semble un peu. On a fait le tour ou autre chose, un bon film d'action.
Moi, une recommandation et Dwayne Johnsonnerie, c'est un peu inévitable, mais Fast and Furious 7, qui est un des meilleurs films de la décennie. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus.
Je suis d'accord, c'est 1/2 sur les Fast and Furious et ça tombe pile sur Fast and Furious 7.
Celui-là, il est vraiment absolument incroyable et Dwayne Johnson a la meilleure réplique et la meilleure scène du film, puisqu'il est à un moment, il se fait un peu tabasser et il a des plâtres partout, mais il doit aller sauver ses copains. Et donc là, il y a sa petite fille qui arrive et il lui dit « Attends, daddy gotta go to work ». Et là, il contracte son bras et son plâtre explose et son bras est miraculeusement guéri. Et après, il part et il arrive à tirer un hélicoptère à bras nus pour mitrailler des gens dans la rue. Enfin, c'est le rôle le plus Dwayne Johnson du monde. Et le film, au-delà de ça, est très bien. Et ils arrivent vraiment, en fait.
Non, pas très bien. Tu as dit un des meilleurs films de la décennie.
C'est un film.
Je le note après le résumé que tu viens de faire.
Un film extraordinaire. Les gens rient, les gens pleurent, les gens crient. C'est un film qui arrive à faire tout ce que Skyscraper n'arrive pas à faire. Qui arrive à faire du grand spectacle, à avoir des scènes de cascade extrêmement bien mises en scène, et en même temps à trouver un équilibre avec un peu de drame et de sérieux, puisque c'était aussi un film qui rendait hommage à Paul Walker après sa mort. C'est le dernier film qu'il avait tourné. Et en fait, ils arrivent à équilibrer tout ça de manière très subtile, ou pas subtile du tout, quand Dwayne Johnson fait exploser ses plâtres. Voilà. Mais vraiment, c'est un classique absolu, et je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Perrine.
Bah je suis sur le film d'action et de Dwayne Johnson. Je sais plus ce que tu avais dit exactement comme terme.
Dwayne Johnsonien.
Dwayne Johnsonien. Ouais, voilà. Oh, ça serait trop bien, ça va rentrer. Genre,
Dwayne Johnsonitude.
Et, bah moi, c'est Rampage qui est récent en fait. Parce que justement, avec Skyscraper, j'attendais un peu un truc à la Rampage. On promet un immeuble en feu et des grosses scènes d'action avec du vide. Waouh! Alors j'en ai. Mais j'ai aussi un peu trop de tout le reste. Donc, et là, dans Rampage, on m'avait promis des grosses bébêtes, du Dwayne Johnson et une Chicago détruite. C'est exactement ce que j'ai eu. Et ça, j'ai adoré qu'on ne me mente pas sur le produit. C'était très agréable. Le film est à un niveau de 0 degré. Enfin, on n'est plus au premier degré, là. On n'est même plus. On n'a rien dépassé du tout. Et c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Ça fait du bien, c'est comme un exutoire, tout casse, tout pète, c'est génial. On casse la gueule à des loups volants. Enfin, moi je trouve que c'est absolument super. Et c'est vrai qu'il y a encore ce truc où il y a quand même Dwayne Johnson qui redémarre un hélicoptère qui était cassé, qui n'a plus de queue.
Décidément.
Il a une vraie histoire avec des hélicos lui. Hein.
Oui,
les enfants et les hélicos.
Et c'est ce qui manquait dans Skyscraper. C'est-à-dire...
Il y en a un moment qui passe à côté, je me suis dit,
est-ce qu'il va l'attraper? Est-ce qu'il va monter dans le. Et... Non, pas d'hélicoptère dans Skyscraper, ce qui fait quand même, ça, c'est moins un dans la catégorie Dwayne Johnson. Donc voilà, je dis ça aussi pour Daniel Andreev, hein, qui a cette passion Dwayne Johnson hélicoptère. Donc là, je recommande vraiment Rampage, si on veut voir le Dwayne Johnson dans toute sa Dwayne Johnsonitude. Puisqu'on a le muscle, le Marcel, la famille avec l'enfant gorille, qui est devenu très grand. Le côté Georges de la Jungle, enfin non pas Georges de la Jungle, c'était mon ami Georges d'ailleurs, non mon ami Joe, oh là, je suis perdue dans le nom des...
Curious George ou mon ami...
Ah c'est Joe. Ça, moi j'étais sur mon ami Joe avec Charlize Theron. Et donc voilà, excellent film. Et donc voilà, et encore une fois, tout est cassé et ça fait beaucoup de bien. Donc si vous êtes énervé, vous avez envie de tout péter, mais que vous savez que ça coûte cher de racheter de la vaisselle, vous pouvez aller voir Rampage, ça soulage.
En conclusion, amis cinéastes, ne mentez pas sur la marchandise à Perrin Kenson, si vous lui promettez des explosions, donnez-les et surtout envoyez des hélicos quand il y a Dwayne Johnson dans un film. Et notre temps est écoulé, merci à toutes les deux, Anaïs Bordage et Perrine Kenson. Merci à Quentin à la technique, merci à Creatis pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes les émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite.
Rosebud
Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.